Radio Cité Genève.
Genève internationale. Épiphanie Monfo.
Bienvenue à toutes et à tous dans cet autre numéro de Genève internationale. Aujourd'hui, nous accueillons Hervé Lecomte, secrétaire général de l'Office international de l'enseignement catholique. L'OIEC joue un rôle crucial dans la promotion de l'éducation catholique à travers le monde, notamment en Haïti, où le système éducatif est gravement affecté par la violence et l'instabilité. Tout récemment, l'organisme a organisé un side event en marge de la 56e session du Conseil des droits de l'homme. Mais avant d'évoquer ce side event, nous sommes en compagnie d'Hervé Lecomte donc pour mieux faire connaissance avec l'OIEC. Bonjour Hervé Lecomte.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'OIEC, qui est l'Office international de l'enseignement catholique. Nous sortons d'un événement parallèle ici au Palais des Nations sur la crise que traverse le système éducatif haïtien. C'était organisé par votre office en marge de la 56e session du Conseil des droits de l'homme. Bien avant d'aborder ce sujet, nous allons faire connaissance avec l'OIEC. Qu'est-ce que l'OIEC justement et comment a-t-il été créé ?
Alors l'OIEC a été créé en 1952. Voilà, c'était une initiative de différents évêques de pays d'Europe. C'est une ONG présente maintenant dans 110 pays du monde, 68 millions d'enfants scolarisés dans 210 000 écoles. Donc c'est de la plus forte puissance éducative. Et aujourd'hui, ces missions sont, je vais les qualifier de deux ordres. Tout d'abord, il y a la première en lien avec le dicaster pour la culture et l'éducation, d'essayer d'appliquer, de faire rentrer dans les écoles les merveilleux textes du Saint-Père, et notamment le texte phare de son pontificat sur le pacte éducatif global. Donc c'est comment essayer de faire vivre ces textes-là, comment faire vivre la fraternité universelle. Donc c'est un réseau important. L'OIEC est découpé en 6 régions au niveau planétaire, avec à chaque fois des représentants qui animent aussi leur région. Donc faire vivre la fraternité, il y a un conseil de l'OIEC qui permet justement chaque année de rencontrer les représentants de ces 6 régions.
Et quelles sont ces 6 régions ?
Alors vous avez la région du CIEC, donc c'est toute l'Amérique, voilà, de l'enseignement catholique. Vous avez la région européenne, le CEEC. Vous avez la région africaine qui actuellement est en train de se réorganiser. Vous avez la MENA, Middle East North African. Et vous avez la région Asie. La dernière région, la 6e, étant la région des congrégations religieuses, qui est une forte région qui m'accompagne aussi. Donc ce sont des relais un peu pour travailler. Le deuxième axe de travail concerne justement la représentation à l'international pour faire parler d'une seule voix, la voix de l'enseignement catholique au niveau des différentes instances que sont l'ONU, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, le Conseil des droits de l'homme, où nous sommes aujourd'hui présents. Voilà, dans mon ministère, il y a notamment un point qui me tient à cœur, c'est comment rejoindre les plus fragiles. Et le side event aujourd'hui, qui est le premier que j'organise aussi à Genève, a tout à fait cette mission-là d'envoyer aux membres de l'enseignement catholique mondial cette information, c'est-à-dire comment on va aujourd'hui œuvrer pour les plus fragiles, comment on va les faire entrer dans le village de l'éducation. On a besoin des forces vives de l'enseignement catholique. On a une force de frappe très importante, mais on doit aussi éclairer les politiques sur des situations inadmissibles que nous avons aujourd'hui en Palestine, en Ukraine, en Haïti. Donc aujourd'hui, c'était ça, avec toujours pour moi un point d'attention fort, c'est ne pas parler pour parler, c'est vraiment de prendre le temps avec les acteurs qui sont sur le terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez pu voir la présence de trois ministres, anciens ministres aussi de l'éducation, présents à mes côtés, du père Osio qui était présent aussi, qui vivent en Haïti, qui savent parfaitement ce qu'il se vit aujourd'hui. Et on avait construit cette intervention d'aujourd'hui, notamment avec notre modérateur, mais également par le biais de trois visios que j'avais organisés avec la communauté de l'Emmanuel, pour entendre ceux qui vivent aujourd'hui en Haïti, pour que je puisse m'imprégner de leurs interventions, pour que mon propos de conclusion puisse être en adéquation avec la réalité de la vie des enfants en Haïti.
Vous avez parlé de l'OIEC et de sa vision internationale avec les Nations Unies, le Conseil de l'Europe et autres. Comment justement l'OIEC a-t-il obtenu son statut ECOSOC et en quoi cela est-il crucial de l'avoir ?
Alors l'obtention du statut, ça a été grâce au travail fort de mes prédécesseurs qui ont œuvré à cela et qui ont montré l'importance de l'OIEC dans le monde. Donc sa reconnaissance a été, je dirais, un peu naturelle suite au travail. Il faut savoir que nous avons à l'OIEC une équipe transversale de représentation qui sont des bénévoles qui m'entourent et qui travaillent dans les différentes commissions que nous pouvons rencontrer, que ce soit à Genève, que ce soit au Conseil de l'Europe à Strasbourg, enfin dans toutes ces instances-là, et qui œuvrent et qui sont présents dans tous les comités de pilotage. C'est une reconnaissance importante, ça nous permet d'être un acteur majeur, de pouvoir témoigner aux différents pays avec lesquels nous travaillons de l'importance que nous avons et de pouvoir après essayer humblement de générer des projets concrets en lien avec justement ces instances internationales. J'ai en tête là l'un des projets que nous menons sur la fraternité universelle qui s'appelle Planète Fraternité et qui a vocation, qui aujourd'hui réunit 6000 jeunes dans 38 pays du monde et qui ont vocation par une méthode pédagogique et le tout en visio à se rencontrer. Voilà, donc l'OIEC aujourd'hui doit être aussi une force de proposition concrète pour les différents pays du monde.
Est-ce que ces engagements ont évolué de sa création à de nos jours ?
Oui, ça a forcément évolué puisque de fait, le nombre d'adhérents au sein de l'ONG s'est confirmé, que l'évolution de notre monde a changé, que les obligations de fraternité universelle sont claires et nettes, que l'Église a changé, que les moyens de communication ont changé et qui nous permettent aujourd'hui d'être à la fois partout. Quand même, voilà, moi je peux être présent en Asie à 14h et être présent en Afrique du Sud à 16h. Et ça favorise quand même. Donc moi j'ai de nombreux sujets qui m'invitent à être dans l'espérance, voilà, et que nous devons aujourd'hui rassurer la jeunesse de ce monde en envoyant des signaux forts de cadrage aussi. Donc cette année, nous avons fêté à l'occasion du 9 mai les enseignants du monde entier pour honorer la mission, pour leur dire merci et pour leur dire à quel point la jeunesse a besoin d'eux dans un cadre rassurant. Car aujourd'hui, la jeunesse est inquiète. Nous avons créé la Commission mondiale des jeunes en octobre dernier. 40 jeunes du monde entier qui partagent, encadrés par des éducateurs bienveillants qui sont là pour les accompagner. Et dans leurs préoccupations, ressort en premier la santé mentale de la jeunesse. Donc ils sont fragilisés, ils nous témoignent de ça. On ne peut pas dire qu'on n'entend pas. Donc nous devons créer des projets qui répondent à leurs préoccupations, qui répondent aux préoccupations du Vatican, puisque la fragilité, la santé émotionnelle des enfants fait partie des préoccupations du Saint-Père. Et nous devons donc être acteurs majeurs dans cet encadrement.
Il y a une grande assemblée, un grand conseil qui est prévu pour cette fin d'année 2024, donc grand conseil de l'OIEC. Pouvez-vous nous en éclairer, nous donner quelques points saillants de cette future assemblée ici à Genève ?
Oui, tout à fait. Donc tout d'abord de dire que les 24 membres qui sont présents, c'est 4 membres de chacune des 6 régions. Donc on a ainsi la représentativité mondiale de l'OIEC présente à cet effet. En décembre 2003, vous avez choisi de nous rencontrer à Rome afin que nous puissions rencontrer le Saint-Père, qu'on puisse rencontrer le dicastère pour la culture et l'éducation et que chaque représentant de son pays ou de la congrégation puisse prendre vraiment de la hauteur et entendre ce que le Vatican nous dit. Il m'a semblé important qu'en 2024, nous puissions aller sur l'autre champ d'action de l'OIEC, à savoir la représentation internationale. Et il m'a semblé tout naturel, pour être venu plusieurs fois à Genève, de venir à Genève avec les membres du Conseil, que nous puissions visiter le Palais des Nations Unies et que nous puissions les éclairer, notamment par des interventions. Il y aura le représentant du Saint-Siège, Mgr Balestero, à Genève, qui fera une intervention. Nous, on aura également des interventions sur le pourquoi du comment des examens périodiques universels, que chacun prenne conscience, quand on les questionne sur ces sujet-là, de l'importance de leur réponse afin que nous puissions être vraiment justes dans les éclaircissements que nous pouvons donner au monde entier sur l'éducation et qu'on entende bien la voix de l'enseignement catholique mondial et non pas la voix de l'enseignement catholique d'un pays. Donc c'est là aussi, dans ma stratégie, essayer de montrer l'unité de l'enseignement catholique mondial, la force que nous représentons et ce que nous pouvons humblement faire vraiment pour aider des pays en fragilité.
Dans la Genève internationale, nous sommes en compagnie d'Hervé Lecomte, qui est secrétaire général de l'Office international de l'enseignement catholique. Nous avons balayé un tant soit peu cet office, justement, qui s'occupe de l'enseignement catholique de par le monde entier. L'OIEC, qui a donc organisé, en marge de la 56e session du Conseil des droits de l'homme, un événement parallèle donc sur la situation du système éducatif en Haïti. Et nous en venons donc à ce sujet. En tant que secrétaire général donc de l'OIEC, quel rôle spécifique l'OIEC joue dans la réponse à la crise éducative en Haïti?
Tout d'abord, c'était monsieur d'éclairer un peu les différents représentants de l'enseignement catholique, qu'ils puissent se rendre compte qu'on ne peut pas laisser un de nos frères ou un de nos sœurs sur le bord de la route, ce qui est le cas aujourd'hui d'Haïti. Il y a des sujets qui ne nous appartiennent pas, entre guillemets, puisqu'on ne peut pas œuvrer sur la stabilité politique. L'OIEC n'a pas tellement son poids, si ce n'est de dénoncer cette instabilité et les conséquences de cette instabilité.
Ce que vous avez fait, justement.
Nous avons fait exactement à l'occasion de sessions ici, de prise de parole, de plaidoyer, et d'aujourd'hui à l'occasion de cet événement parallèle. Et puis la deuxième phase, c'est de montrer la nécessité d'être présent à l'occasion de la période où nous retrouverons la stabilité par la solidarité internationale, par la nécessité que les frères et sœurs de l'enseignement catholique du monde entier puissent être présents aux côtés des écoles haïtiennes pour trouver des fonds. Voilà, le nerf de la guerre, c'est toujours quand même de l'argent, qu'ils puissent être en confiance pour que nous puissions voir comment aiguiller ces fonds, comment reconstruire des écoles, comment investir, comment redonner confiance. Les Haïtiens sont dans l'espérance, sont dans l'attente de leurs frères et sœurs du monde entier au niveau de l'enseignement catholique. Donc nous allons diffuser l'intervention de ce matin à travers tous nos outils de communication, du site internet, de notre réseau WhatsApp, de la newsletter de l'enseignement catholique que nous avons, qui est quand même très largement partagée, pour que chacun puisse entendre aussi. Et c'est un signal fort aussi au-delà d'Haïti de dire nous allons rejoindre les plus fragiles à l'occasion de ce mandat. Nous ne pouvons pas laisser des pays en fragilité.
Mais justement, comment l'Haïtien ou l'Haïtienne qui entendra ce message diffusé de la part de l'OIEC pourra croire en ce que cette espérance puisse pouvoir aboutir à quelque chose de concret pour lui?
Vous savez, le premier message que j'ai reçu de remerciement à l'occasion de la première visio, c'est un simple merci d'avoir pris du temps pour eux. Voilà, c'était une quinzaine de personnes, des responsables d'établissements catholiques en Haïti. Et je me suis dit, j'ai pas fait grand-chose, et pourtant, ils sont contents déjà de cette écoute attentive. D'où l'organisation de deux autres visios que nous avons pu faire. Et je m'engage personnellement à poursuivre ce travail d'écoute et d'accompagnement qui est indispensable pour que les acteurs majeurs sur site, c'est-à-dire dans le pays, en Haïti, gardent cette espérance. Donc je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je ne sais pas comment les autres acteurs de l'enseignement catholique vont réagir, mais on a des obligations. On doit imposer aux autres personnes, sans que ce soit descendant ni pyramidal, puisque ce n'est pas ma conception de la gouvernance internationale. Mais ça doit sonner comme une évidence que nous puissions être à leur côté. Et c'est par ces témoignages bouleversants que nous avons entendus, en les partageant, que des acteurs, nous n'avons que des belles personnes dans l'enseignement catholique mondial, vont se dire « on a besoin d'être à leur côté, nous allons le faire ». La jeunesse va répondre à ça par le Conseil mondial des jeunes, par le projet Planète Fraternité qui a déjà répondu. Je pense au Maroc, je pense à l'Espagne qui a dit « nous allons aider humblement à notre façon Haïti ». Donc je pense qu'on peut créer une petite impulsion dynamique et ce sera un bel exemple pour les autres pays que nous pouvons aider.
Avec des partenaires comme l'UNESCO et les ONG locales?
Oui, tout à fait. On va s'implanter. D'ailleurs, dans les différentes visios que nous avons pu faire, nous étions en lien avec des ONG qui s'implantent. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'événement parallèle organisé était en partenariat avec d'autres ONG. Je crois infiniment à l'association avec d'autres ONG. Certains ont leurs compétences, leurs spécificités. Je pense au BICE, notamment, qui œuvre dans la solidarité internationale et qui, clairement, n'est absolument pas en concurrence avec l'UIC. C'est un partenaire. Nous venons de signer le 25 juin dernier avec Alessandra Aoula une convention de partenariat, l'objectif étant à la fin la scolarisation des enfants. Si je peux œuvrer par la communication à aider certaines ONG à développer leur parcours, leur process de solidarité, l'OIEC aura avancé.
Sur le terrain en Haïti, quelles sont les remontées justement de vos partenaires sur place concernant bien entendu le système éducatif?
Voilà, parce que c'est un drame absolu, très clairement. Voilà, je pense à la communauté de l'Emmanuel, les frères du Sacré-Cœur, voilà, de tout ce qui est pillage, les tueries, les gangs, brûler des écoles, l'obligation de scolarisation en enseignement à distance, qui est déjà un signe positif, mais le reste est un carnage total. Voilà, donc les enfants ne vont plus à l'école, ça dure depuis 2-3 ans, on parle de génération sacrifiée, donc aujourd'hui il faut vraiment peser nos mots, on parle de génération sacrifiée, et ceux qui s'en sortent avec le plan Biden sont presque kidnappés pour aller rendre des services aux États-Unis. Donc ce ne sont pas des choses qui sont acceptables, nous devons les dénoncer, nous devons être présent à leur côté et aider, soutenir moralement tous ceux qui œuvrent sur place. Voilà, et j'ai des retours positifs du soutien de l'OIEC et les propos tenus à la fin de cet événement parallèle m'encouragent dans cette dynamique vraiment forte d'accompagnement des acteurs qui sont présents sur site.
Quelles recommandations spécifiques l'OIEC a-t-il pour les gouvernements, les donateurs internationaux et la société civile pour renforcer ce système éducatif en alerte en Haïti ?
Voilà, tout d'abord, il est inacceptable que les demoiselles ne puissent plus aller à l'école. Voilà qu'aujourd'hui, les familles font des choix et que les filles, les jeunes filles, comme les appelle le Saint-Père, n'aillent plus à l'école. Dans les différentes orientations que nous avons pu donner à l'OIEC, qui font partie du pacte éducatif global, il y a la promotion de la femme. Donc ça, c'est une orientation très forte. Comment on va pouvoir rééquilibrer le système éducatif en permettant à des demoiselles de retourner à l'école ? Je vais donner comme orientation également la notion d'être prêt quand nous pourrons œuvrer par rapport à la solidarité. Et vous voyez, avec la communauté de l'Emmanuel, à la sortie de l'événement, on a convenu de réorganiser une visio avec les partenaires qui seront sur site pour que nous soyons prêts avec les différents bailleurs de fonds qui sont prêts aujourd'hui à donner de l'argent, mais qui attendent cette stabilité politique pour être bien organisés. Donc on ne peut pas perdre de temps. Voilà, quant aux politiques, ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre en avant pour leur stabilité, pour la jeunesse, parce que c'est l'avenir même d'Haïti. Et quant à la communauté internationale, elle doit très rapidement condamner cette faillite totale pour les enfants qu'on doit préserver.
Merci à vous, Hervé Lecomte, secrétaire général de l'Office international de l'enseignement catholique. Nous étions ici au Palais des Nations, donc à la suite de cet événement parallèle qui a réuni l'OIEC donc, et ses partenaires. C'était donc à la salle 25. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée à l'écoute de Radio Cité Genève 92.2 FM. Cet entretien ainsi que les autres sont disponibles à la réécoute sur radiocité.ch. À tout bientôt.
Merci à vous, cher monsieur.